crevasse. William Faulkner. Le détachement poursuit son chemin, à la limite du tir de barrage, à travers l'enchevêtrement des trous d'obus anciens et récents, où il descend, d'où il remonte en rampant. Deux hommes en soutiennent péniblement, emportent plutôt, entre eux un troisième. Deux autres se sont chargés des trois fusils. Une guenille sanglante entoure la tête du blessé. Il titube sur ses jambes flageolantes. Sa tête ballotte à droite et à gauche. De la sueur coule lentement sur sa figure encroûtée de boue. Le tir de barrage s'allonge toujours à travers la plaine, distant, impénétrable. De temps en temps arrive, on ne sait d'où, un léger souffle de vent qui dissipe momentanément la fumée sombre flottant sur des bouquets de peupliers mutilés. Le détachement s'engage dans un champ, le traverse, un champ qui, il y a quelques mois, était ensemencé de blé et où les germes continuent de pousser, de s'attacher obstinément au sol pilonné parmi les éclats d'acier et les lambeaux d'étoffe détrempée. Il traverse le champ et arrive au canal bordé de moignons d'arbres brutalement rasés à la hauteur uniforme de 5 pieds. Les hommes se couchent sur le sol, boivent de cette eau contaminée, en remplissent leurs bidons. Les deux porteurs laissent glisser à terre le blessé. Il s'affale flasquement sur le bord du canal, les deux bras dans l'eau. La tête suivrait le reste si ses camarades ne le soutenaient. L'un d'eux puise de l'eau dans son casque, mais le blessé ne peut avaler. Alors, on l'assit. L'autre camarade maintient le bord du casque contre les lèvres du blessé, remplit le casque de nouveau, lui verse de l'eau sur la tête pour humecter le pansement. Puis, il tire de sa poche un chiffon sale et avec une douceur maladroite, essuie la figure du blessé. Le capitaine, le sous-lieutenant et le sergent, debout, examinent attentivement une carte maculée. Au-delà du canal, le sol s'élève en pente douce. La tranchée du canal révèle par ses strates crayeuses la nature calcaire du terrain. Le capitaine replie la carte. Le sergent donne à mi-voix aux hommes l'ordre de se lever. Les deux porteurs mettent debout le blessé. Le détachement longe le bord du canal et au bout de quelque temps arrive à un pont constitué par la coque remplie d'eau d'un chaland attaché de chaque bout à chacune des rives. On traverse. De l'autre côté, on fait halte de nouveau, tandis que le capitaine, le sous-lieutenant et le sergent consulte encore une fois la carte. Le bruit de la fusillade passe à travers le pâle après-midi de printemps comme le crépitement prolongé de la grêle sur un interminable toit de tôle. À mesure que les hommes avancent, le sol crayeux monte graduellement sous leurs pieds. Le terrain est raboteux, aride, schisteux, et la tâche devient de plus en plus difficile pour les deux qui soutiennent le blessé. Mais quand ils font mine de s'arrêter, celui-ci se débat, se dégage brusquement et continue tout seul, chancelant, les mains à la tête, trébuche et tombe. Les porteurs le rattrapent, le relèvent, le soutiennent entre eux tandis qu'il bredouille des paroles sans suite et tente de dégager ses bras. Il bredouille. Bonnet, bonnet, bonnet. Libère ses mains, s'efforce d'enlever son pansement. Le fracas du tir de barrage se rapproche. Le capitaine regarde en arrière et s'arrête. Spontanément, les hommes font de même, posent l'arme à terre. « Le v'là qui tire sur son pansement, capitaine !» dit un des porteurs. Ils font asseoir l'homme entre eux. Le capitaine s'agenouille près de lui. « Bonnet, bonnet !» bredouille l'homme. Le capitaine desserre le pansement, l'humecte avec l'eau d'un bidon que lui tend le sergent et pose la main sur le front du blessé. Les autres, debout, autour d'eux, regardent avec un intérêt discret et détaché. Le capitaine se relève, les porteurs mettent de nouveau le blessé debout, le sergent ordonne aux hommes de se remettre en marche. Ils atteignent le haut de la montée. L'autre pente se prolonge dans la direction de l'ouest en un plateau légèrement ondulé. Vers le sud, sous son manteau sombre, le tir de barrage continue, furieux. À l'est et au nord, sur la plaine étincelante et vide, de la fumée monte, lentement, de place en place, au-dessus des bouquets d'arbres. Mais c'est la fumée de quelque chose qui brûle, de bois qui brûle et non de poudre à canon. Les deux officiers mettent leurs mains en visière, regardent avec attention. De nouveau, sans qu'on leur en ait donné ordre, les hommes s'arrêtent et mettent l'arme au pied.
« Mon Dieu, mon capitaine !»
dit tout à coup le sous-lieutenant d'une voix aiguë et fluette.
« Ce sont des maisons qui brûlent. Ils battent en retraite, les salauds, les salauds !»«
Possible, » fait le capitaine en regardant au-dessous de sa main. « Nous pouvons contourner ce barrage à présent. Il devrait y avoir une route par là-bas. » Il repart à grands pas. « Avant, marche !» dit le sergent, toujours à mi-voix. Les hommes remettent l'arme sur l'épaule, docilement, sans questionner. La pente est couverte d'une herbe coriace qui ressemble à de l'ajonc. Les insectes y bourdonnent, se lèvent sous les pieds des hommes, retombe, recommence à bourdonner dans le frémissement du soleil de midi. Le blessé marmotte toujours. De temps en temps, on s'arrête pour lui donner de l'eau et humecter son pansement, puis deux autres soldats relaient ceux qui le soutenaient, lui font hâter le pas et rejoignent les rangs. La tête de la colonne s'arrête. Les hommes se heurtent l'un contre l'autre en cahotant, comme les wagons d'un train de marchandises. Au pied du capitaine s'étend une excavation large et peu profonde, où pousse une herbe éparse et moribonde qui ressemble à des touffes de baïonnettes jaillies du sol. L'excavation est trop grande pour avoir été faite par un petit obus, trop peu profonde pour l'avoir été par un gros. Aucun indice ne permet de conclure qu'elle ait été produite par quoi que ce soit. Il regarde dedans, silencieusement.
Bizarre, dit le sous-lieutenant.
Qu'est-ce qui peut bien avoir fait ça, à votre avis ? Le capitaine ne répond pas. Il tourne les talons. Tous font le tour de l'excavation en suivant le bord et l'examinent sans rien dire. Mais à peine l'ont-ils quitté qu'ils arrivent à une autre, un peu moins vaste peut-être.
Je ne savais pas qu'ils avaient quelque chose qui puisse faire des trucs comme ça, dit le sous-lieutenant.
Le capitaine ne répond pas davantage. Il contourne également celle-ci et continue de suivre la crête de la hauteur. De l'autre côté, la pente dégringole abruptement en une succession de couches d'un calcaire blanchâtre rongé par les érosions. Une ravine peu profonde coupe brusquement de sa faille croulante le sentier où il marche. Le capitaine change encore de direction, marche parallèlement à la ravine, jusqu'au moment où, à une courte distance, celle-ci tourne à angle droit et reprend la direction primitive de leur marche. Le fond de la ravine est dans l'ombre. Le capitaine indique le chemin, descend les roides gradins du talus, entre à son tour dans l'ombre. Les hommes font descendre le blessé avec précaution et continuent leur route. Au bout d'un instant, ils arrivent à l'ouverture de la faille. Ils s'aperçoivent qu'ils viennent de déboucher dans le creux d'une de ces excavations peu profondes qu'ils ont déjà observées. Celle-ci, cependant, ne se dessine pas avec la même netteté et le bord qui leur fait face est, semble-t-il, interrompu par une autre excavation, comme deux disques qui chevaucheraient l'un sur l'autre. Ils traversent la première où, de nouveau, cette herbe sans vie qui ressemble à des baïonnettes leur sabre brutalement les jambes et, franchissant la brèche, Il s'engage dans la seconde. Celle-ci ressemble à une vallée entre des miniatures de collines. Au-dessus d'eux, ils n'aperçoivent que la voûte lourde et vide du ciel, avec quelques pâles taches de fumée vers le nord-est. Le fracas du tir de barrage n'est plus maintenant qu'atténué et lointain. Une vibration du sol que l'on sent plutôt qu'on ne l'entend. Ici, pas le moindre entonnoir récent, pas la moindre trace de trou d'obus. On a l'impression de s'être tout à coup égaré dans un monde où la guerre n'est pas encore parvenue, où rien n'est parvenu, où la vie n'existe pas, où le silence même est mort. On donne de l'eau aux blessés et on continue à marcher. La vallée, la dépression s'étend, indistincte devant eux. Ils s'aperçoivent qu'elle consiste en une suite de cuvettes vaguement circulaires, chevauchant les unes sur les autres et dont on ne peut attribuer la cause à aucun agent apparent ou logique. Les herbes décolorées, qui ressemblent à des baïonnettes, leur sabrent les jambes et au bout de quelques instants, ils se retrouvent de nouveau au milieu de moignons d'arbres cicatrisés depuis longtemps où se cramponnent quelques rares feuilles, ni vertes ni sèches, atteintes et surprises elles aussi, dirait-on. Par un entracte du temps, qui bavarde entre elles d'un air pince sans rire, bien qu'il n'y ait pas le moindre souffle d'air. Le fond de la vallée n'est pas plat. Il se creuse en de molles dépressions, remonte capricieusement entre ses parois en gradins. Au centre de ces creux de moindre dimension, des bosses de marne crèvent la mince couche de terre. Le sol a une sorte d'élasticité. On croirait marcher sur du bouchon. Les pas ne font pas de bruit.
Épatant pour les pieds, fait le sous-lieutenant.
Bien qu'il n'élève pas le ton, sa voix remplit la petite vallée avec la soudaineté d'un coup de tonnerre, emplit le silence. Les paroles semblent rester suspendues autour d'eux, comme si le silence était demeuré si longtemps inviolé qu'il en eût oublié son propre objet. Tandis qu'ils regardent autour d'eux avec une tranquille indifférence, les parois croulantes, les fantômes d'arbres obstinés, le ciel doux et paisible.
Fameux coin pour les oiseaux embusqués et autres bestioles du même genre, déclare le sous-lieutenant.
Oui,
répond le capitaine.
Son oui reste à son tour paresseusement suspendu, puis s'efface par degrés. Les hommes en arrière serrent les rangs, communiquant le mouvement à ceux de l'avant. Ils regardent autour d'eux avec une calme gravité.
Il n'y a pas d'oiseaux ici, ajoute le sous-lieutenant. Pas même d'insectes.
Non, répond le capitaine. Le mot s'éteint lentement. Le silence retombe, ensoleillé, profondément muet. Le sous-lieutenant s'arrête. Pousse quelque chose du pied. Les hommes s'arrêtent eux aussi, et sans y toucher, les deux officiers examinent le fusil à moitié enterré et couvert de rouille. Le blessé recommence sa litanie.
Qu'est-ce que c'est, mon capitaine ? Demande le sous-lieutenant.
On dirait un de ces flingots qu'avaient les Canadiens à un Ross, n'est-ce pas ?
Français, dit le capitaine. 1914.
Ah ! Fait le sous-lieutenant. Il retourne le fusil du bout de son pied. La baïonnette est encore fixée au canon, mais la crosse est depuis longtemps déjà tombée en poussière. Ils poursuivent leur marche à travers le terrain inégal parmi les bosses de craie qui émergent du sol. La lumière, la pâle et torpide lumière du soleil, s'épand sur le vallon, stagnante, immatérielle, sans chaleur. Les sabres des herbes s'érigent, clairsemés et rigides. Ils regardent de nouveau autour d'eux les parois schisteuses, puis les hommes de tête observent le sous-lieutenant, qui s'arrête, pique du bout de sa canne une des bosses de craie, la retourne tout d'un coup et découvre ses orbites remplies de boue et son rictus impénétrable.
« En avant !»
commande brusquement le capitaine. Le détachement se remet en marche. Au passage, avec une tranquille curiosité, les hommes regardent le crâne. Ils avancent, parmi les autres bosses blanchâtres, semblables à des billes éparpillées au hasard sur la mince couche de terre végétale.
tous dans la même position, remarquez-vous, mon capitaine ? Dit le sous-lieutenant de son ton enjoué de conversation.
Tous tout droit, drôle de façon d'en tirer les types, assis, et pas profondément non plus.
Oui, fait le capitaine. Le blessé ne cesse de marmonner. Les deux hommes qui le soutiennent s'arrêtent avec lui, mais les autres se hâtent derrière les officiers, laissant derrière eux le blessé et ses deux camarades.
« T'arrêtes pas pour lui donner à boire !» fait l'un d'eux.
« Il peut boire en marchant !» Il soulève le blessé et continue d'avancer, tandis que l'un d'eux essaye de maintenir aux lèvres du blessé le goulot d'une bouteille qui lui tape contre les dents et laisse dégouliner de l'eau sur le devant de sa tunique. Le capitaine jette un regard en arrière.
« Qu'est-ce que c'est que ça ? »
fait-il brusquement. Les hommes forcent le pas et se groupent derrière lui. Ils ouvrent de grands yeux tranquilles. Le capitaine parcourt du regard ses visages calmes et attentifs.
« Que se passe-t-il donc là, derrière, sergent ? » ?»«
C'est le vent qui s'élève ? » dit le sous-lieutenant. Il jette un regard circulaire sur les parois rongées par l'érosion et les bosses blanchâtres qui émergent paisiblement du sol.
« Je le sens moi aussi »,
ajoute-t-il. Il rit, d'un rire un peu sec et qui cesse tout de suite.
« Sortons d'ici, mon capitaine »,
fait-il.
« Retournons au soleil. »«
On est au soleil ici », répond le capitaine. « Écartez-vous un peu, les hommes, ne vous tassez pas, on ne va pas tarder à sortir d'ici. Nous allons trouver la route, dépasser le barrage et nous mettre en liaison avec les troupes. »
Il fait demi-tour et repart en avant. Le détachement se remet en marche.
Puis, tous comme un seul homme, ils s'arrêtent, un pied en l'air, et se regardent l'un l'autre. De nouveau, la terre bouge sous leurs pas. Un homme pousse un hurlement aigu, semblable à un cri de femme ou à un hennissement. Tandis que la terre tremble sous eux pour la troisième fois, les officiers se retournent et aperçoivent, au-delà de l'homme en train de s'enfoncer, un trou béant avec de la poussière tombant encore de ses bords avant que l'orifice ne s'élargisse davantage sous les pieds d'un second soldat. Alors, au-dessous du détachement tout entier, une crevasse s'ouvre comme un coup de sabre. La terre se brise sous leurs pieds, s'effondre comme des carrés déchiquetés de nougatine blanchâtre, encadrant un bâillement noir d'où éclate comme une explosion silencieuse une odeur caractéristique de chair en décomposition. Tandis qu'ils bondissent pêle-mêle en titubant, muets à présent, pas un cri depuis le hurlement qu'a poussé le premier tombé. D'une masse de terre à une autre, celle-ci s'incline et glisse jusqu'à ce que tout le fond de la vallée coule lentement sur eux et les ensevelisse dans les ténèbres. Un grondement sourd monte dans la poussière, avec une bouffée de pourriture et de poussière légère qui flotte en suspens dans l'air rarifié autour de l'orifice noir. Le capitaine se sent plonger le long d'un mur vertical écroulant, fait de la terre qui s'éboule, des hurlements de terreur, des bruits d'efforts désespérés dans les ténèbres couleur d'encre. Quelqu'un, de nouveau, pousse un cri aigu. Le cri s'éteint. Il entend la voix du blessé qui monte, fluette, incessante, des entrailles croulantes de cette pourriture. « Je suis pas mort, je suis pas mort !» puis se tait subitement. Comme si une main s'était appliquée sur la bouche de l'homme. La mouvante falaise avec laquelle le capitaine s'était enfoncé s'incline peu à peu et le rejette, indemne, sur un terrain dur où il reste un moment étendu sur le dos, sentant passer sur son visage le souffle de mort et de décomposition qui cherche à s'exhaler vers la lumière et le grand air. Il s'est heurté contre quelque chose. Ce quelque chose tombe sur lui légèrement avec un bruit sourd, comme si cela se brisait en morceaux. Alors, le capitaine commence à percevoir la lumière, la forme déchiquetée de l'orifice du puits. À ce moment, le sergent se penche sur lui, dirige vers son visage le rayon d'une lampe de poche.
« McKee ?»
interroge le capitaine. Pour toute réponse, le sergent dirige vers son propre visage le rayon de la lampe.
« Où est McKee ?»«
Où est Monsieur McKee ?» demande le capitaine.
« Disparu, mon capitaine, »
répond le sergent d'une voix basse et rauque.
Combien d'hommes reste-t-il ?
14, mon capitaine, murmure le sergent.
14 ? 11 manquants, il faut creuser, vite !
Il se met debout. La faible lumière d'en haut tombe avec une lueur froide sur l'amoncellement de terre éboulée, sur les 13 casques et le bandage blanc du blessé groupé au bas de l'escarpement.
Où sommes-nous ?
Sans répondre, le sergent promène autour de lui les rayons de la lampe. Ils s'étendent horizontalement dans les ténèbres, le long d'un mur, d'une galerie, dans l'obscurité béante, sur les parois pailletées de parcelles claires et brillantes de craie. Dans la galerie, assis ou debout, appuyés contre les parois, sont des squelettes vêtus de la veste bleu foncé et du pantalon bouffant des tirailleurs. Et, à côté d'eux, leurs fusils tombant en poussière. Le capitaine reconnaît en eux des Sénégalais qui ont pris part au combat du mois de mai 1915, surpris sans doute et tués par les gaz dans les attitudes qu'ils avaient prises en se réfugiant dans les carrières de Marne. Il prend la lampe des mains du sergent.
« Il faut chercher où sont les autres, » dit-il.
« Prenez vos outils de tranchée. » Il braque la lampe sur le puits. Sa lueur monte dans les ténèbres, dans la pénombre, puis dans la pâle lumière du jour, tout là-haut. Le sergent derrière lui, il escalade l'entassement mouvant. La terre s'éboule sous ses pieds avec un bruit de ruissellement. Le blessé recommence à se lamenter.
« Je suis pas mort, je suis pas mort !»
Jusqu'à ce que sa plainte devienne un hurlement aigu et ininterrompu. Quelqu'un applique une main sur sa bouche. Sa voix s'étouffe, puis devient un rire strident, puis un autre hurlement, puis s'étouffe de nouveau. Le capitaine et le sergent montent aussi haut que la prudence le leur permet, piochant dans la terre qui coule derrière eux avec un bruissement léger. Au bas du puits, les hommes se tassent, levant vers la lumière leur visage indistinct, pâle et patient. Le capitaine promène les rayons de la lampe du haut en bas du puits. Rien qu'on puisse apercevoir, aucun bras, aucune main. L'air se purifie peu à peu.
« On s'en tirera, » dit le capitaine.
« Oui, mon capitaine, » murmure le sergent.
De chaque côté d'eux, la caverne se perd dans les ténèbres, s'enfonce profondément, remplie de squelettes assis ou appuyés, debout contre les parois, leurs fusils à côté d'eux.
L'éboulement nous a projetés en avant, dit le capitaine.
Oui, mon capitaine, souffle le sergent.
Parlez tout haut, fait le capitaine, ce n'est qu'un bout de galerie. Si des hommes y sont entrés, nous pouvons en sortir.
Oui, mon capitaine, murmure le sergent.
Si l'éboulement nous a projetés en avant, l'entrée doit se trouver par là.
Oui, mon capitaine, chuchote le sergent.
Le capitaine braque la lampe devant eux. Les hommes se lèvent, se groupent calmement derrière lui, le blessé au milieu d'eux. Il geint. La galerie s'enfonce devant eux, déroule ses parois luisantes. Les formes assises éclairées par le rayon de la lampe grimacent à leur passage un muet sourire. L'air se fait plus lourd. Bientôt il court, haletant, puis l'air redevient plus léger et le rayon de la lampe balaie un autre éboulis de terre qui obstrue la galerie. Les hommes s'arrêtent, serrés les uns contre les autres. Le capitaine escalade l'éboulis. Il éteint brusquement la lampe, se hisse lentement jusque dans le haut, à l'endroit où l'éboulement touche à la voûte de la galerie. Il renifle. La lampe s'allume de nouveau.
« Deux hommes avec leur outil de tranchée, » dit-il.
Deux hommes grimpent le rejoindre. Il leur montre la fissure par où l'air pénètre, chichement mais de façon continue. Ils se mettent à creuser avec acharnement, rejetant la terre derrière eux. Au bout de quelque temps, deux autres les remplacent. La fissure ne tarde pas à devenir un boyau, où quatre hommes peuvent travailler à la fois. L'air est déjà plus frais. Les hommes creusent furieusement avec des gémissements de chiens. le blessé, peut-être parce qu'il les entend, peut-être parce qu'il subit la contagion de l'énervement général, recommence à rire d'un rire aigu, absurde. À ce moment, l'homme qui se trouve à l'extrémité du boyau atteint l'air libre. La lumière coule autour de lui comme de l'eau. Il pioche frénétiquement. On s'aperçoit dans le contre-jour sa croupe qui s'agite, puis la lumière disparaît brusquement et la lumière du jour entre à plein. Les autres abandonnent le blessé, se ruent vers le haut de l'éboulis, se bousculant, s'invectivant à l'entrée du boyau. Le sergent se précipite à leur suite et les écarte de l'ouverture à coups de pelle de tranchée en les injuriant d'une voix basse et enrouée. «
Laissez-les aller, sergent !» dit le capitaine.
Le sergent obéit, s'écarte de l'ouverture et regarde ses hommes s'engouffrer dans le boyau. Puis, il redescend et avec le capitaine hisse le blessé jusqu'au haut de l'éboulis. À l'entrée du boyau, le blessé a un sursaut de révolte.
« Je suis pas mort, je suis pas mort !»
gémit-il en se débattant. Par la persuasion et par la force, il l'enfourne, toujours gémissant et luttant dans le boyau où il redevient docile et qu'il se hâte de franchir.
« Sortez, sergent !» dit le capitaine.
« Après vous, mon capitaine !»
murmure le sergent.
« Sortez, mon vieux !» répète le capitaine.
Le sergent s'engage dans le boyau. Le capitaine le suit. Il émerge sur le versant extérieur de l'éboulement qui avait obstrué la galerie et au pied duquel les 14 hommes, l'un près de l'autre, se sont agenouillés. À quatre pattes, comme un animal, le capitaine respire avec un bruit rauque.
« Cela va bientôt être l'été, »
pense-t-il, en remplissant d'air ses poumons plus vite qu'il ne peut les vider pour respirer encore.
Cela va bientôt être l'été et les longs jours.
Au pied de l'éboulement, les 14 hommes sont agenouillés. L'un d'eux, au milieu, tient une Bible à la main, psalmodie d'un ton monotone. Au-dessus de sa voix, le jargon du blessé, vide de sens, puéril, monte interminablement.